Bonjour à tous, je suis donc très heureux d'avoir la chance de pouvoir découvrir, grâce à tous les orateurs qui vont se succéder sur ces deux journées, un nouvel épisode du beau programme Passage des disciplines. Avec ce colloque Freud au Collège de France, on pourra sans doute découvrir une histoire en creux du Collège de France, c'est un premier aspect en tous les cas, mais aussi sans doute une autre histoire de Freud, ou peut-être faudrait-il mieux dire une autre histoire des Freud, les figures de Freud, et en l'occurrence des Freud du Collège de France. Cette première séquence, donc je vais être très rapide parce qu'il faut que je fasse attention au temps, c'est ce que Céline m'a bien rappelé à juste titre. Cette première séquence consacrée à Freud, lecteur des professeurs du Collège de France, va immédiatement nous faire entrer dans cette histoire qu'on imagine déjà heurtée, discontinue, complexe, bref, passionnante. Mais je vais donner immédiatement la parole à M. Prochians, administrateur du Collège de France, qui va nous parler des bases neurales de l'individuation. La parole est à vous.
Comment il s'éteint ? Bon, je dois d'abord remercier Antoine pour sa très gentille invitation. Au départ, je n'ai pas très bien compris pourquoi il me demandait de venir, mais finalement, comme nous travaillons sur l'individuation dans mon laboratoire et que je suis neurobiologiste et que le cerveau a à voir avec toute cette affaire, je pense que, somme toute, je me suis adapté avec une certaine plasticité à la chose. Je dois dire que j'ai commencé, évidemment, ma connaissance de Freud est assez limitée, et j'ai surtout été extrêmement sensible à la lecture de Freud au style, c'est-à-dire que pour moi, ça reste malgré tout, et avant tout peut-être, un très grand écrivain, de même d'ailleurs que d'autres très grands philosophes ou anthropologues. Je pense que d'une certaine façon, des gens comme Bergson, des gens comme Lévi-Strauss sont avant tout des littéraires extraordinaires. Et je crois que la lecture de Freud, de ce point de vue, est extrêmement plaisante aussi sur le plan littéraire. Je ne m'avancerai pas sur le reste, sauf pour ce livre que vous connaissez tous, évidemment, qui est l'esquisse pour une psychologie scientifique. Donc, j'ai mis ici quelques schémas qui pourraient vous amuser. Donc, on voit les sortes de bases neurales, si vous voulez, la psychologie. Ce livre est très étonnant, comme vous le savez, parce qu'il a des côtés assez délirants. Et en fait, quand Fliss n'est pas loin, le délire, souvent, n'est pas très loin non plus dans l'écriture de Freud. Donc, je pars de là parce que, fondamentalement, c'est peut-être très naïvement de la part d'un scientifique, peut-être le moment où se séparent deux lignes, la ligne qui est la mienne, bien entendu, qui est celle d'un neurobiologiste et qui pense qu'on peut trouver dans les sciences du système nerveux toutes les explications nécessaires, et puis une ligne qui est plus propre à une psychanalyse qui, au fond, doit se débrouiller aussi par elle-même et avec ses théories et ses concepts, et cela ne me regarde absolument pas, ou en tout cas très très peu, c'est mon point de vue de toute façon. Donc je vais vous raconter un tout petit peu comment la neurobiologie et comment, en fait, même des travaux qui sont faits chez moi peuvent apporter une contribution modeste, certes, mais je crois pas inutile à cette question qui est la question de l'individuation, qu'on pourrait traduire en gros par qu'est-ce qu'être soi, d'une certaine façon, qui n'est pas loin de nos préoccupations dans le cadre d'un colloque de ce type. De nouveau, vous m'excuserez aussi, je suis pas mal pris par le temps en ce moment, c'est la fin de l'année et nous avons des obligations au niveau du collège qui me mobilisent pas mal. Et donc je n'ai pas pris la peine de traduire en français, mais je pense que beaucoup d'entre vous parlent anglais, et puis il y a des choses qui se traduisent facilement. Ce texte de Geschwind, qui est un excellent généticien en tant que neurobiologiste, montre à quel point l'étude dans des perspectives évolutives et aussi de biologie du développement sont très intéressantes pour ce qui est de comprendre les pathologies, mais aussi de comprendre d'une certaine façon comment fonctionne un système nerveux. Donc je crois que, y compris comment il dysfonctionne, parce que, comme le disait notre monsieur Canguilhem, qui finalement est une des personnes que nous avons le plus lues dans notre jeunesse, Comme le disait quand Guilhem, après Claude Bernard, bien entendu, il n'y a pas une physiologie pour la santé et une physiologie pour la maladie. Toute pathologie est une physiologie qui déraille. Donc, perspective évolutive, oui, ben, nous sommes tous, je suis matérialiste, je suis athée, je suis darwinien. Et donc, oui, les mammifères se trouvent quelque part dans l'histoire de l'évolution, mais nous avons tous un ancêtre commun, tous les animaux, toutes les plantes ont des ancêtres communs. Le dernier organisme unicellulaire, évidemment, qui se passe par ici, et d'une certaine façon, il y a, alors là c'est Darwin évidemment, dans l'esprit humain, la trace de cette origine tout à fait modeste, qui est celle de tous les êtres vivants sur cette terre, depuis que la vie, ou le vivant plutôt, si vous permettez, est arrivé il y a environ 3 à 3,5 milliards d'années. Évidemment, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie de l'évolution des hominidés, des humains. Et vous voyez que nous sommes séparés, et c'est très important en fait de comprendre la différence entre les hommes et les chimpanzés de ce point de vue. Nous sommes séparés des chimpanzés il y a environ 7,8 millions d'années. Je pense qu'on peut placer Toumaï dans cette région-là, par ici, Toumaï, Lucie. Et vous voyez que cette séparation qui emmène les chimpanzés ici pendant 7 millions d'années, c'est-à-dire qu'entre sapiens et les chimpanzés, il y a 7 millions dans un sens et 7 millions dans l'autre, nous avons environ 14 millions d'années de différence. Cela ne veut pas dire, évidemment, que l'étude... nous ne sommes pas des chimpanzés. Je pense que je consacrerai tout mon cours de l'année prochaine justement à la comparaison entre le cortex des primates et le cortex de tous les primates, donc des chimpanzés, et aussi le cortex de sapiens. Mais il reste que, bien entendu, nous sommes extraordinairement près, malgré tout, sur le plan biologique, des chimpanzés. Je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de vous rappeler la figure de Claude Bernard, qui a été évoquée il y a un instant par Antoine. Et si je mets ici Claude Bernard, c'est parce que Claude Bernard a cette chose tout à fait extraordinaire, à mon avis, d'avoir introduit l'idée que le vivant, ce n'est pas uniquement un système thermodynamique qui est arrivé à l'apogée de sa puissance à un certain âge, se détruit progressivement par augmentation d'entropie jusqu'à la bascule dans le néant. Pour Claude Bernard, la vie, c'est la mort et la vie, c'est la création. C'est-à-dire que c'est le renouvellement à chaque instant des structures qui composent les organismes. Et je crois que je vous illustre ça ici très simplement avec un organisme qui est un de nos ancêtres, donc en tout cas qui a un ancêtre commun avec nous, qui est une hydre, bêtement. Et vous voyez que si vous arrivez à marquer une cellule souche d'une hydre avec un marqueur vert, qui est ici en fait une protéine de méduse, vous voyez que progressivement, toute l'hydre devient verte. Ça veut dire qu'en fait, elle change ses cellules assez rapidement. Et il en est de même de chacun d'entre nous. Nous perdons chaque année, regagnons chaque année environ 80 kilos de cellules. Et ça, c'est assez à la fois intéressant et inquiétant. Hein. Nous faisons un gros intestin tous les 5 jours. Donc, le système nerveux, c'est un tout petit peu différent, comme vous allez le voir, mais cela veut dire que nous ne sommes pas cette espèce d'individu constant, ce qui ouvre la question de qu'est-ce qu'être soi si chaque année nous renouvelons complètement sur le plan cellulaire. L'autre chose que j'aimerais vous faire voir ou entendre, c'est que, parce qu'il y a des religieux du gène aussi, c'est-à-dire que « touche pas à mon gène », par exemple, mais que les gènes, ce n'est pas quelque chose de stable. Hein. Les gènes, ça saute, les gènes, ça se casse. Ce que vous voyez ici, c'est qu'ils se cassent surtout quand on réfléchit. C'est-à-dire que, faites attention, penser casse le génome. Vous pouvez voir ici, par exemple, si vous avez une souris que vous faites entrer dans un nouvel environnement, vous voyez tout de suite que le nombre de cassures dans son ADN augmente énormément dans des régions très importantes, comme ce qu'on appelle le gyrus dentelé. Et si vous la remettez après au repos, elle répare. C'est-à-dire ça casse et ça répare. Mais si vous avez introduit dans cette souris un gène qui est un gène correspondant à une maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer, vous voyez que la réparation se fait beaucoup moins bien. Donc en fait, ça corrèle un petit peu avec ce que je vous disais, c'est-à-dire que la physiologie et les pathologies, la pathologie, c'est une physiologie qui déraille. Ici, c'est une pathologie de la non-réparation correcte de génome, dont les cassures est un processus tout à fait physiologique, de même que le renouvellement des cellules est physiologique, de même que la réparation des membranes est physiologique. Donc rien n'est stable dans le vivant, et rien n'est stable non plus dans un individu, rien n'est stable dans notre cerveau, dans notre génome. C'est une notion un peu angoissante, je veux bien le reconnaître, mais avec laquelle il faut apprendre à vivre, enfin pour un certain temps. Je parlais, pour une certaine durée, je parlais de neurogénèse, de prolifération de cellules. Il y a aussi de la prolifération de cellules dans le système nerveux. Et vous voyez ici que tous les organismes, tous les vertébrés ont une neurogénèse adulte, et ça c'est quelque chose de très important. Vous voyez ici par exemple chez le poisson, vous avez énormément de neurogénèse, vous avez une neurogénèse chez le canari, c'est là en fait qu'elle a été établie solidement en premier par quelqu'un qui s'appelle Notebaum, qui est encore vivant et qui travaille à Rockefeller. Et vous avez évidemment de la neurogénèse chez les mammifères, dans deux régions, une région qu'on appelle la zone subventriculaire et une région qu'on appelle l'hippocampe qui est ici. Et ça, ce sont de nouveaux neurones qui se font tout au long de l'existence. Ça diminue un peu avec le vieillissement, il faut l'admettre, mais ça continue quand même jusqu'à la fin. Ces deux régions, je les ai mis ici, vous avez cette région ici, vous avez ces nouveaux neurones qui se forment ici, qui vont en fait envahir le bulbe olfactif, c'est-à-dire qu'on se fait quasiment un nouveau bulbe, une certaine classe de neurones dans le bulbe. Chez les souris, ça se fait à peu près tous les deux mois. Chez Sapiens, il se trouve que ça va plutôt vers une autre structure qu'on appelle le striatum, ce n'est pas très intéressant pour vous. Ce que je veux donner, c'est l'idée en fait, de cette espèce d'instabilité extraordinaire du vivant. Et puis vous avez une autre structure ici qui s'appelle l'hippocampe, donc vous avez cette neurogénèse qui, elle, est extraordinairement importante sur le plan cognitif. Donc au niveau de cette neurogénèse dans l'hippocampe, et je fais ça encore de nouveau pour vous inquiéter un petit peu, vous avez ce qu'on appelle des modifications du génome liées à l'introduction de gènes sauteurs. Donc, de nouveau, vous avez des gènes qui sont transcrits, retranscrits en ADN et qui viennent s'insérer dans différentes régions du génome, introduisant ainsi des mutations et des modifications. Ce qui fait que même si vous êtes un jumeau, donc ici vous avez ces neurones qui prolifèrent, en fait, la course à pied augmente le nombre de nouveaux neurones. Donc, je vous encourage à aller faire un petit peu de jogging le matin. C'est bon pour la cognition, c'est bon pour votre hippocampe, mais en même temps, au fur et à mesure que vous faites ces nouveaux neurones, vous insérez des mutations à cause de ces gènes sauteurs. Ce fait que même si vous êtes deux jumeaux tout à fait identiques, eh bien, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus le même hippocampe. Or, cet hippocampe est important pour ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est l'entrée, en fait, de la mémorisation au niveau du cortex. Donc, vous voyez que ce système nerveux est en fait, je dirais, assez inquiétant, et que je serais tout à fait d'accord avec Alice au Pays des Merveilles. Donc au moins, je savais qui j'étais ce matin quand je me suis réveillé, mais je pense que j'ai beaucoup changé plusieurs fois depuis. Voilà, et effectivement, je pense que Alice a raison. Si j'osais, je dirais qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. J'avais rajouté ces diapositives quand j'ai regardé le programme et je me suis dit, tiens, j'ai une heure, ça va être très long. Et Céline Surprenant m'a écrit hier soir vers 11h30 en me disant, non, tu n'as qu'une demi-heure, donc je vais les retirer maintenant, je préfère. C'est juste pour vous dire que cette neurogénèse adulte a probablement énormément à voir aussi avec la régulation de l'humeur, c'est-à-dire qu'elle a à voir avec les phénomènes dépressifs. C'est un travail qui est fait depuis longtemps, mené depuis longtemps par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle René Haine, qui est à l'Université Columbia, et dont vous retrouverez une petite interview sur les sites du Collège de France dans quelques temps, puisqu'il est venu au Collège il y a quelques jours, quelques semaines, et que nous avons inauguré la série des petits objets multimédia Collège de France par une interview de René sur, justement, le rôle de cette neurogénèse adulte dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. En dépit, si vous voulez, de cette labilité, d'une certaine façon, sur laquelle j'ai insisté dans ces premiers moments, et une labilité qui est, comme je disais, au fond la clé, une des clés de la compréhension de ce qu'est la physiologie d'un organisme, aussi les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine régénérative, pour ceux qui espèrent vivre longtemps et suffisamment longtemps pour qu'on leur greffe de nouveaux organes à partir de leurs cellules souches. Il reste qu'il y a un mécanisme qui permet de maintenir une certaine mémoire dans les systèmes, et en particulier au niveau cellulaire. C'est-à-dire que si vous prenez un fibroblaste et qu'il se divise, il va donner deux fibroblastes, sauf si vous le transformez en cellules souches, qui est aussi possible. Et ces mécanismes ont été, la première fois, pas mis en évidence, mais en fait, formulés sur le plan hypothétique par quelqu'un qui s'appelle Weddington, hein, qui est mort il y a quelques années, et ce qu'on appelle en fait l'épigénèse, c'est-à-dire que bien que deux cellules, comme un neurone ou un muscle, ont les mêmes gènes, ils n'expriment pas les mêmes gènes, et ça, c'est lié à des modifications d'expression génétique qui est verrouillée par ces processus épigénétiques. Des processus épigénétiques qui ont à voir avec des modifications de l'ADN, des modifications de ces protéines qui habillent l'ADN, qu'on appelle les histones, et qui sont évidemment en relation avec d'autres processus épigénétiques tels qu'ils nous ont été appris ou enseignés, en particulier par Jean-Pierre Changeux, dans cette théorie de l'épigénèse, c'est-à-dire que la forme des réseaux neuronaux, la modification de ces réseaux neuronaux, qui, comme vous allez voir, a à voir avec l'individuation, évidemment aussi en relation avec la modification des structures au niveau du génome. Donc ce jeu entre ces deux types d'épigénèse, évidemment quelque chose d'extraordinairement important. Donc je passe là-dessus parce que ça fait partie des choses que j'avais rajoutées pour Céline et que j'ai retirées pour Céline tout aussi vite, pour revenir à cette histoire d'humain. Comme vous voyez, normalement, un cerveau, ça sert à bouger. Les plantes n'ont pas de cerveau. Les plantes ne bougent pas. Hein. Sauf dans Macbeth, mais ce n'est pas bon signe. Donc les plantes ne bougent pas, mais les animaux bougent, et ça veut dire qu'ils doivent s'orienter en fonction du monde extérieur. Je sens et je bouge, je vois et je bouge, j'entends et je bouge, pour attraper ou fuir un prédateur, tout autre objet. Et cela veut dire qu'il y a, chez les primates en particulier, une relation linéaire, normalement, entre la taille du cerveau et la taille du corps. Hein, c'est un système sensorimoteur. Et quand on rentre dans le genre homo, hein, eh bien, on voit tout de suite que nous sortons de cette linéarité, de cette proportionnalité. Et pour Homo sapiens, nous sommes tout à fait en hors de l'échelle. C'est-à-dire qu'Homo sapiens a 900 cm3 de cerveau en trop. Donc, sur 1400 cm3, c'est un chiffre non négligeable d'en avoir 900 en trop, d'autant plus que ces 900 cm3 ne sont pas placés n'importe où. Ils sont placés dans les aires cognitives, dans les aires du langage, dans les aires associatives, et que proportionnellement, nous avons moins d'aires visuelles, par exemple, ou moins d'aires olfactives qu'un singe. Donc, il y a quelque chose de monstrueux dans un cerveau humain qui explique que nous soyons ici au Collège de France, puisque, bien entendu, malgré la grande estime que j'ai pour la culture chimpanzé, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la brindille à termites et Notre-Dame de Paris, même si je n'aime pas énormément Notre-Dame de Paris, je le reconnais. Donc cette folie, d'une certaine façon, exceptionnelle de l'homme, ce qui est appelé une fois à nature par nature, parce que tout ça, évidemment, est le résultat de l'évolution. Vous la voir ici, on parle de l'ancêtre commun entre les chimpanzés et puis les modernes humains qui sont évidemment un cerveau tout à fait non conforme à ce qu'il devrait être si nous étions principalement des êtres sensorimoteurs. Mais ce n'est pas uniquement la taille, bien entendu. Évidemment, vous transformez un appartement, un studio de 20 mètres carrés hein, à Paris, en un appartement de 100 mètres carrés. Hein, c'est à peu près ça qui se passe. Mais en même temps, vous changez les bords. C'est-à-dire que vous agrandissez le salon et vous diminuez la cuisine. Hein. Donc, cette question de modification des bords, c'est-à-dire donner plus de place à des structures qui sont impliquées dans les phénomènes cognitifs, évidemment extraordinairement importante. Hein. Et les mécanismes qui permettent de modifier ces bords, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je serais ravi d'en discuter avec ceux de vous qui sont intéressés, parce que c'est une des lignes de recherche de mon laboratoire, le changement de positionnement des bords. Évidemment, un des mécanismes très importants. Et pourquoi c'est très important? Vous voyez ici la souris et l'humain, ça c'est l'échelle. Hein. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on peut tirer des souris est important, mais il y a un changement d'échelle absolument extraordinaire, en particulier pour ce qui est des régions du cortex préfrontal. Mais la raison pour laquelle c'est important de savoir que c'est un agrandissement et aussi un changement des bords, C'est la suivante. Elle a à voir énormément avec les questions qui nous préoccupent sur la question de l'individuation et sur la question de la relation de ce qu'on appelle la psychologie expérimentale aux neurosciences. Vous voyez ici que vous avez ici un bord. Quel bord? Entre le système sensoriel et le système moteur. En tout cas, sa représentation au niveau du cortex. Et vous voyez ici que Brodmann, qui a le premier fait ses cartes que je montrais tout à l'heure avec différentes localisations cérébrales, que vous voyez ici, différentes régions qui sont dévouées à différentes fonctions. Ici, par exemple, les aires visuelles primaires, les aires visuelles secondaires, les aires du langage qui sont ici. Eh bien, vous voyez que, en fait, la structure du cortex est absolument identique de part et d'autre de bord. C'est-à-dire que quand vous changez un bord, vous gardez d'une certaine façon les mêmes neurones. Et donc, la structure du cortex préfrontal, par exemple, celle qui est impliquée dans les phénomènes cognitifs, principalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, n'est pas différente de la structure d'un cortex auditif ou d'un cortex sensoriel ou d'un cortex moteur. C'est-à-dire que si j'ai augmenté, et si les mécanismes qui permettent la maturation de ces cortex ne sont probablement pas extraordinairement différents des mécanismes qui permettent la maturation des cortex qui sont impliqués dans les fonctions cognitives. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça veut dire que ce qu'on peut trouver dans les études sur le développement de cortex relativement simples, comme un cortex sensoriel ou comme un cortex visuel, sont probablement des mécanismes qui sont aussi à l'œuvre dans la maturation d'un cortex impliqué dans des fonctions cognitives. Donc ici, c'est pour vous montrer qu'on peut changer des bords. Voilà une souris, voilà un cerveau de souris, et par une mutation sur laquelle je ne vais pas pousser, vous voyez ici que tout d'un coup, on a énormément augmenté les aires motrices et sensorielles et diminué les aires visuelles. Donc on a bougé les bords, mais vous voyez que la taille totale du cerveau n'a pas changé. Donc ce qui s'est passé chez Sapiens, c'est qu'on a augmenté la taille totale du cerveau, mais qu'en plus on a bougé les bords, et qu'en bougeant les bords, on a recruté des aires qui normalement étaient affectées à des fonctions, je dirais, de base, pour les affecter à des fonctions qui sont des fonctions qui ont plus à voir avec ce qui fait la spécificité de l'humain. Donc ça, c'est des choses que j'ai rajoutées hier, que je vais donc retirer. Hein. Encore que c'est assez rigolo. Enfin, maintenant, j'ai un peu de mal, évidemment. Ça, c'est votre faute, Céline. Je sais pas où vous êtes, mais vous êtes coupable. Donc, c'est assez amusant, parce qu'ici, vous voyez que c'est une affaire génétique, c'est-à-dire qu'il y a des enhancers qui sont des éléments qui régulent la force d'expression d'un gène. Et vous voyez que là, il y a un enhancer chez le chimpanzé et un autre chez l'humain. Et si je prends l'enhancer humain et que je le mets dans une souris, eh bien, je peux augmenter la taille de mon cortex de souris. Donc, tout ça est tout à fait assez banal. Hein. C'est jamais que de la chimie, de la biologie cellulaire, qui fait qu'on peut modifier la taille d'un cerveau, qu'on peut modifier les bords à l'intérieur d'un cerveau, et que fondamentalement, tout ça est relativement simple, d'une simplicité évangélique, mais d'une simplicité réelle. Comment on peut finalement évoluer pour devenir un sapiens. Un sapiens, c'est plus de neurones. Hein, donc, bien entendu, nous avons énormément plus de neurones pour des mécanismes sur lesquels je vous informerai au cours de mon cours l'année prochaine. Mais il y a une classe de neurones qui est particulièrement importante pour l'individuation. Cette classe de neurones qui est particulièrement importante, et là je crois qu'il faut un tout petit peu d'attention, ce sont des neurones inhibiteurs. Dans le cortex, vous avez des neurones activateurs, qui sont des neurones qui fonctionnent avec un neuromédiateur qu'on appelle le glutamate. Et vous avez des neurones inhibiteurs qui fonctionnent avec un autre neuromédiateur qu'on appelle le GABA. Et ces neurones inhibiteurs sont extrêmement importants chez Sapiens. Ils sont extrêmement importants dans le cortex de Sapiens. Et vous voyez qu'en allant faire des synapses sur les neurones excitateurs, ils peuvent contrôler un très grand nombre de neurones excitateurs. C'est-à-dire que le système, l'inhibition est quelque chose de... Vous n'allez pas en tirer des conclusions psychanalytiques, je vous en prie. Mais l'inhibition est un phénomène extraordinairement fort dans le fonctionnement d'un cerveau, est très fort dans le fonctionnement d'un cerveau humain. Et vous allez voir pourquoi c'est important, parce qu'en fait, le cerveau humain se développe très tardivement. Il se développe tardivement, pourquoi? Parce que, deux raisons. D'abord, parce que le cerveau est très gros. Et ensuite, parce que nous sommes des bipèdes. Et comme nous sommes des bipèdes avec un cerveau très gros, ça ne passerait pas, si j'ose dire, par les conduits naturels, si on attendait que le cerveau soit mature pour sortir. Donc, en fait, le cerveau sort de façon prématurée. Ce fait qu'une grande partie du développement cortical se fait à l'extérieur, et ce n'est pas pour dire que le milieu placental n'est pas un milieu riche intellectuellement, mais le milieu extérieur est, lui, beaucoup plus riche intellectuellement. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui se développe en interaction avec le monde et qui est modifié par le monde. Loin de cette vision un tout petit peu, je dirais, matérialisme simpliste du genre le cerveau secrète la bile, le secrète la pensée comme le foie secrète la bile, pour des raisons tout à fait matérialistes, en fait, le cerveau est lui-même sécrété par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est modifié dans sa forme par les interactions qu'il entretient avec le monde. C'est un rapport. La pensée, dans ce cas-là, peut être considérée comme un rapport entre le vivant et son milieu. D'ailleurs, c'est vrai au niveau individuel, comme c'est vrai au niveau des espèces. Mais c'est une autre affaire. Et donc, le cerveau se construit d'extérieur, à partir d'extérieur, sur une base génétique, bien entendu. Vous ne transformerez jamais un cerveau de singe en cerveau humain, sauf à faire ce genre de manipulation auquel je vous convie. Mais les comités d'éthique, à mon avis, vont nous empêcher. Je sais pas, Jean-Pierre Changeux est ici, il nous dira son sentiment là-dessus. Mais je ne crois pas que le comité consultatif national d'éthique permettra qu'on fasse les mutations nécessaires pour donner la parole aux singes. Bien qu'ils la méritent, puisqu'ils sont si proches de nous. Donc, voilà. Donc, nous construisons donc, nos systèmes corticaux. Et voyez ici que ces constructions sont très, très étranges. Hein. Vous avez ici l'homonculus qu'on peut trouver dans un musée à Londres, qui est la représentation sensorielle d'un sapiens. Et vous voyez qu'elle n'est pas proportionnelle à ce que vous voyez dans votre miroir le matin. Elle est proportionnelle à la quantité d'innervation des organes. C'est-à-dire que vous avez des très grandes lèvres, des doigts extrêmement extraordinaires. Ça, c'est un homoculus sensoriel. On voit très vite que ce n'est pas un homoculus monteur. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais les spécialistes s'en rendront compte assez rapidement. Donc, cette taille de la représentation au niveau cortical, elle est liée, en fait, à l'innervation sensorielle. C'est-à-dire que si vous bloquez au cours d'une période où le cerveau peut s'adapter, qu'on appelle une période critique, à ce moment-là, vous allez modifier la taille des organes cérébraux. Et c'est ça qui est vraiment important, parce que ce n'est pas uniquement vrai pour les systèmes sensoriels. Du fait, justement, de la conservation de la structure du cortex, et du fait qu'on a pu changer les bords, comme je vous l'expliquais plus tôt, c'est vrai, en fait, de toutes les fonctions. Et ces périodes critiques, pendant lesquelles le cerveau est sensible à l'événement extérieur, ne durent pas longtemps, elles durent pendant une certaine période de temps, hein. Vous savez, les étudiants pensent qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans et qu'on devient bête après. Ce n'est pas du tout le cas. On est bête jusqu'à un certain âge, intelligent pendant une petite période, et on redevient bête. Et cette petite période pendant laquelle on est intelligent s'appelle la période critique, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Donc vous voyez que ces périodes critiques ne se passent pas au même moment dans le cortex. Pour le système sensoriel, c'est plutôt plus tôt. Vous avez des systèmes critiques, périodes critiques, où le cerveau est sensible à l'apprentissage, par exemple pour le système moteur ou le système linguistique, un peu plus tardivement. Et puis, vous avez aussi les périodes critiques pour la cognition et pour les higher brain functions, comme on dit. Voilà. Et n'importe qui a essayé d'apprendre à jouer d'un instrument de musique après un certain âge ou apprendre une langue après un certain âge, sait que la plasticité n'est pas tout à fait la même à 40 ans et à 12, hélas. Donc, cette période critique de développement, qui est vraie pour pratiquement toutes les régions corticales, il y a quelques exceptions, qu'on va voir avec la neurogénèse justement, ces périodes critiques sont liées à la maturation d'une petite classe de neurones dont j'ai parlé, qui sont justement ces neurones inhibiteurs. Ces neurones inhibiteurs, qui sont les neurones à part valbumine, c'est un marqueur, leur maturation, c'est-à-dire l'augmentation de l'inhibition, eh bien, ouvre à une certaine période, puis ferme à une autre, la période pendant laquelle le système nerveux peut répondre dans sa forme, dans les modifications de son activité physiologique, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, à l'information qui lui vient de l'extérieur ou qui ne lui vient pas, si elle venait à manquer. Vous avez un exemple tout à fait classique, c'est l'exemple de l'amblyopie. Il y a peut-être des amblyopes dans la salle, c'est en général, il y en a, voilà. C'est l'amblyopie, c'est-à-dire que si un enfant a une cataracte et qu'on n'opère pas la cataracte avant l'âge de 6 ou 7 ans, eh bien, même si on ouvre après et que si l'œil est parfait, que la caméra fonctionne bien, eh bien, ce qui a manqué à se construire à ce moment-là dans le cortex ne se construira jamais, parce que les afférences qui viennent de l'autre œil, après un relais thalamique, bien entendu, eh bien, auront pris toute la place. Et donc, pendant cette période de maturation des neurones inhibiteurs, vous ouvrez et vous fermez la plasticité. Alors, pendant ce temps-là, vous pouvez réparer, c'est-à-dire que si vous opérez avant 4-5 ans, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est terminé, parce que le système n'est plus plastique. Et ce qui est vrai pour la vision, je disais, est probablement vrai pour beaucoup d'autres fonctions, comme vous allez le voir. Donc c'est assez simple. Si vous prenez une souris et que vous fermez un œil de la souris pendant la période critique, eh bien les innervations qui viennent de l'autre œil vont envahir la place, hein, et votre souris deviendra amblyope. Et cette période de plasticité pendant laquelle vous pouvez faire ça est relativement limitée chez la souris, entre le 20e jour et le 40e jour de la vie postnatale. Je vais très vite là, parce que ça m'intéresse. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des moyens de rouvrir cette plasticité chez l'adulte, simplement en rendant les neurones jeunes de nouveau. Donc ça, c'est plutôt positif. Je ne sais pas, parce que c'est bien de ne pas être trop jeune. Hein. Si vous changez votre neurone tout le temps, vous auriez un cerveau de salamandre. Donc je ne sens pas que les salamandres savent qui elles sont. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que, enfin, c'est un travail qui a été fait en particulier dans mon laboratoire, que vous avez une protéine qui vient du plexus choroïde, qui va rentrer dans les neurones par valbumine, augmenter leur maturation, et là, j'ouvre une période de plasticité. Un deuxième seuil, elle ferme la plasticité, mais si après je retire cette protéine, et si j'arrive à la faire diminuer, ça c'est relativement facile, je peux rouvrir la plasticité. C'est-à-dire que je peux prendre une souris amblyope, hein, voilà, et je peux lui rendre la vision binoculaire chez l'adulte. Et ça, c'est une maladie relativement bête. Hein. L'amblyopie n'est pas une maladie, à vrai dire. On peut vivre très bien comme amblyope, ceux qui ne sont pas handicapés, quasiment pas. Mais il y a d'autres maladies qui sont des maladies de la période critique, qui peuvent être des maladies beaucoup plus handicapantes. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il n'y a pas, par exemple, de modèle animal de la schizophrénie. Bien entendu, une souris n'est pas un humain, comme vous pourriez avoir un modèle de souris de la schizophrénie. Mais si vous alliez identifier des mécanismes qui ont à voir avec la maturation du système nerveux, qui sont les mêmes pour les régions qui sont impliquées dans des fonctions cognitives et dans les systèmes visuels, alors vous pourriez dire, par exemple, que ces modèles qui sont des modèles d'étude de la plasticité d'un cortex visuel et de l'apprentissage et du réapprentissage et de la réouverture de la plasticité sont des mécanismes qui sont peut-être aussi impliqués dans des maladies psychiatriques qui sont évidemment des maladies beaucoup plus graves que des défauts sensoriels comme une amblyopie. Or, il se trouve que cette protéine, OTX2, qui voyage depuis le plexus choroïde jusqu'aux antécédents de pervalmine, est présente dans toutes les régions du cortex, y compris dans les régions du cortex frontal, dans le cortex auditif, et ce que nous avons montré pour le cortex visuel, nous l'avons aussi démontré récemment pour le cortex auditif, et aussi, de façon assez rigolote, pour le cortex préfrontal. Et nous pouvons apprendre à une souris à aimer la musique, à condition de lui rouvrir sa plasticité chez l'adulte, alors qu'en général, elle préfère le silence. Je vais donc aller assez rapidement là pour vous dire que ça peut être des implications pour des problèmes qui vous intéressent, qui sont des problèmes de maladies psychiatriques, parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, beaucoup de ces maladies psychiatriques se déclenchent dans des périodes qui sont pré-pubertales ou au moment de la puberté. Et là, c'est une période critique. C'est une période très critique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous certainement, mais c'est une véritable métamorphose. C'est-à-dire que le monde ne vous voit plus de la même façon, vous ne voyez plus le monde de la même façon, et vous ne vous voyez plus vous-même de la même façon avant et après l'arrivée des hormones. Et ces maladies psychiatriques sont très souvent vues aujourd'hui comme des maladies de période critique, c'est-à-dire d'un cerveau qui ne se serait pas, pour des raisons qui peuvent être génétiques, épigénétiques, environnementales, ce n'est pas le débat. Mais le résultat, c'est que pour beaucoup de psychiatres aujourd'hui, ces maladies sont des maladies d'un système nerveux qui n'a pas été capable de s'adapter à ce changement de l'environnement en modifiant comme il le faudrait la formation des réseaux de neurones au niveau de régions très importantes du cortex, en particulier le cortex préfrontal. Et vous voyez ici que c'est vers ces âges que vous avez une augmentation de l'inhibition, c'est-à-dire la maturation du neurone par valbumine, autour de 15 ans, entre 15 et 20 ans, car le cortex se développe très tardivement. Donc on peut imaginer, et c'est une hypothèse qui est amenée par beaucoup de psychiatres, que ces maladies, qui sont des maladies en fait, de la socialisation sexuelle, je ne parle pas de sexualité infantile, les freudiens m'excuseront, mais je parle de sexualité adulte cette fois-ci, eh bien cette sexualisation ne se fait mal, cette socialisation se fait mal, du fait d'un défaut de la maturation des systèmes inhibiteurs. Donc, et donc, d'une mauvaise formation des réseaux. Alors là, vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est mon avant-dernière diapositive. Je vois que mon collègue ici s'impatiente un peu. Je vous promets que j'arrête de vous embêter avec ça, mais je crois que c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle les... Quand vous avez ces neuroinhibiteurs qui maturent, ils convergent aux neurones glutamatergiques, vous avez une inhibition, une activation, et en fait, vous formez ce qu'on appelle des oscillations. Ce sont des oscillations extraordinairement importantes, hein, ce qu'on appelle des gamma bands ici, c'est-à-dire que c'est du 80 Hz. Hein. Donc, ce sont des neurones qui doivent recapturer les ions pratiquement 80 fois par seconde. Donc une très grande activité métabolique. Je ne vais pas parler du métabolisme, c'est dommage. Si j'avais eu une heure, effectivement, je l'aurais fait. Parce que le métabolisme, c'est aussi une très grande spécialité du système nerveux humain. Mais vous voyez ici que si vous avez maintenant ce qu'on appelle les figures de Mooney. Donc ici, il faut voir que c'est une tête d'homme, mais que c'est tellement contrasté que ça prend un certain temps pour le voir. Et si vous avez une figure de Mooney inversée, ça prend encore plus de temps. Et vous voyez que, en fait, quand vous maturez, vous apprenez à voir ça assez rapidement. Ça, c'est le temps qu'il faut, si vous voulez, pour que le cerveau déclenche ces bandes gamma, montrant qu'il a reconnu ici que c'était une figure d'humain inversée. Mais vous voyez que entre la jeunesse d'un enfant, et le early adolescence, et l'adolescence plus tardive, vous avez une disruption de cette reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez une désorganisation de vos bandes gamma. Et c'est ensuite après que ça se remet en place, hein, qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que vous avez de nouveau une rematuration du système. Donc il y a une période critique extrêmement importante qui se passe dans cette période tardive du développement. Et nous ne connaissons pas évidemment les mécanismes de la période critique, mais je serais prêt à prendre un pari, puisque évidemment faire de la science, c'est d'abord faire des paris, bien entendu, qu'ils ne sont pas très différents de ce qu'on peut voir pour la maturation d'un système visuel ou d'un système auditif. J'ai parlé 32 minutes. Est-ce que vous êtes intéressé par la suite ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ? Monsieur, c'est à vous de me le dire.
Non, mais vous pouvez prendre 2 minutes encore.
Donc, je voulais juste vous revenir un tout petit peu sur les gènes. Parce que j'aime beaucoup les singes. Je ne permettrai à personne d'en douter. Mais nous ne sommes pas des singes. Nous sommes juste des primates. Ce n'est pas la même chose. Donc, il se trouve que le cerveau humain a gagné, en fait, la course des gènes. C'est-à-dire que nous avons eu ces mutations. Et je voudrais juste vous donner un exemple de mutation. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des mutations. C'est-à-dire que les gènes, on imagine toujours qu'il y a un gène. Le gène de ceci, le gène de cela. En fait, ce sont des réseaux de gènes. Les gènes fonctionnent en réseau. C'est-à-dire quand un gène fonctionne, vous avez une centaine de gènes qui fonctionnent avec lui. C'est bien parce que ça régule. S'il y en a un gène qui commence à sortir de l'épure, les autres le ramènent à la raison. C'est de la physiologie, la génétique. Hein. Vous ne pouvez pas varier l'expression d'un gène important de plus de 10% pendant un certain temps sans qu'il y ait une pathologie qui se déclenche. C'est comme la température. Si vous augmentez de 10% votre température corporelle, vous l'amenez à 40 degrés. Si vous restez 15 jours à 40 degrés, vous êtes mort. Hein. Donc, c'est la même chose. C'est un processus physiologique et cette co-régulation des gènes est importante parce qu'au-delà des gènes, elle permet de voir quels sont les gènes qui sont co-régulés. Vous voyez ici un petit module de co-régulation qui est spécifique à l'humain et qui est très amplifié dans le cortex frontal. Et ces gènes-là, essentiellement, sont des gènes de la synapse, des gènes de la libération vésiculaire, donc du fonctionnement sympathique, des gènes du cytosquelette, donc de la construction du système nerveux, et des gènes du métabolisme énergétique. Le métabolisme énergétique est probablement exceptionnel chez Sapiens, au point que énormément de maladies neurologiques et psychiatriques peuvent aujourd'hui être vues comme des maladies métaboliques. Notre cerveau est un animal très cher. 2% du poids du corps, 20% de la consommation énergétique. D'accord ? Donc nous sommes pratiquement toujours au bord de la crise énergétique dans un système nerveux. Je vous disais tout à l'heure que les petits neurones parvalumine, tellement importants pour la cognition, comme vous avez pu le comprendre, sont obligés de repomper, rééquilibrer leurs ions 80 fois par seconde. Ça demande énormément d'ATP. Ça demande une énergie folle. Et 20%, c'est si on faisait une adéquation avec le singe, il faudrait en fait qu'on ait 40% de notre énergie métabolique qui passe dans le cerveau. C'est pas possible. Donc, le système nerveux est un système qui est toujours en danger sur le plan métabolique. Heureusement, on a inventé la cuisine. Nous avons inventé la cuisine. Et grâce à une culture culinaire, eh bien, nous pouvons nourrir ce cerveau en consacrant aux tâches nutritives environ 2 heures par jour. Si nous étions des chimpanzés, et si nous avions un génome de chimpanzé ou de gorille, il faudrait que nous consacrions plus de 12 heures par jour à nous nourrir. Ça laisse peu de temps pour les tâches cognitives. Une fois que vous avez dormi et fait le reste, vous voyez ce qu'il vous reste pour réfléchir, c'est pas grand-chose. Donc, un animal tout à fait particulier, avec un métabolisme tout à fait particulier, qui d'ailleurs se traduit aussi au niveau physique. Nous sommes les seuls animaux à pouvoir faire un marathon. Aucune bête ne le ferait. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils ont trop de poils. La sudation ne leur permet pas de rafraîchir la machine. Nos ancêtres, il y a environ 100 à 200 000 ans en Afrique, pouvaient attraper des antilopes à la course, pas en 5 minutes, mais en 2 heures. Au bout de 2 heures, la pauvre bête n'en pouvait plus, il n'y avait plus qu'à la cueillir, parce que le sapiens est un animal extraordinaire sur le plan métabolique, pour son corps comme pour son cerveau, mais ça sera l'objet d'une autre conférence. Je vais donc conclure ici pour vous montrer comment ça se construit. Donc vous avez cet homonculus que j'appelle l'homonculus du miroir, c'est celui que vous regardez le matin dans la glace, qui se construit essentiellement sur une base génétique, c'est pour ça que vous ressemblez à votre papa et à votre maman. Mais ensuite, vous avez cette construction des homonculi cérébraux qui, eux, sont évidemment humains, mais modulés par l'expérience, par une expérience sensible, interne, externe, toutes les formes d'expérience, dépendant évidemment de la région du cortex que vous regardez, et une période, et ils sont modulables pendant une certaine période. Il le reste un petit peu après, mais beaucoup moins, ça ce sera l'objet d'un autre débat. Mais cette période pendant laquelle vous pouvez construire ces homonculi, ces périodes critiques, existent pour toutes les fonctions cérébrales, les fonctions cognitives, comme pour les fonctions sensorielles ou motrices. Il me reste donc à remercier les collègues qui ont fait les expériences que je vous ai montrées. Beaucoup d'entre elles ont été faites en collaboration avec mon collègue Takao Hench de Harvard et son équipe. Ici, ce sont mes collègues Michel Volovitch, un ami de toujours, Ariel Linardo, Namsung Kim, Clémence Bernard, qui est maintenant partie, postdoc, Damien Testa, Clémentine Vincent et Jessica Play. Et puis, évidemment, avec toutes les sources de financement habituelles. Et je vous remercie et je remercie de nouveau Antoine de m'avoir permis de développer un petit peu de biologie pour commencer. C'est dur, je sais, mais bon, il y a la pause café.